rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaud Dautuil au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour Monseigneur Ginoux.
Bonjour Thibaud et bonjour à tous ceux qui écoutent.
Vous êtes donc l'évêque de Montauban et avec vous pendant ce mois d'octobre, nous évoquons la figure du Père. La semaine dernière, nous étions avec Dieu, tout simplement Dieu le Père. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la sphère d'intimité de Jésus et de son Père, Joseph, son Père éducateur. Il est désormais dans la prière eucharistique aux côtés de Marie, c'est dire à quel point l'Église l'estime important dans l'accomplissement du Christ. Et pourtant, c'est l'un des personnages silencieux de la Bible. Il ne dit rien. En fait, qu'est-ce qu'on sait de lui ?
Il est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. L'Église catholique l'a mis dans la prière eucharistique par Jean 23, Saint Jean 23, qui, au moment de l'ouverture du Concile, a spontanément, de son propre mouvement, introduit dans la prière eucharistique après la Vierge Marie, pour montrer qu'il a un rôle essentiel dans le salut. Bien sûr, il n'est pas le Père de Jésus, nous le savons bien, puisque l'Esprit Saint couvrit Marie de son ombre, etc. Mais sans lui, l'incarnation ne se fait pas. Bien sûr, d'abord sans Marie, elle est la première. Mais Marie comme, est une créature humaine qui a été choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur. Mais il fallait, sur la terre, j'allais dire pour l'état civil, légalement, un père à cet enfant. Mais il fallait aussi quelqu'un qui l'aime, qui le nourrisse, qui le protège. Et ce sera bien le cas pour Joseph au premier temps de la vie de l'enfant Jésus. Et d'autre part, il était entendu que le Messie devait naître de la race de David. Or, il fallait que d'une certaine manière, il appartienne à cette lignée, à cette descendance de David. Si je prends l'évangile selon saint Matthieu, quand il est question de la naissance et de l'enfance de Jésus, au premier chapitre, l'ascendance de Jésus, qu'est-il dit ? Il y a une série de personnes qui sont nommées dans le temps, c'est-à-dire on remonte à la genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, pour arriver à cette phrase « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. » Jacob engendra Joseph, le père de Joseph, Jacob, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. Le texte ne dit pas que Jésus est né de Joseph, mais de Marie. Mais en même temps, parce qu'il est l'époux, il fait entrer Jésus dans la lignée de David. Donc Jésus devient bien descendant de David par Joseph. Quand vous me dites qui est-il, ben c'est cela. Il est l'époux de Marie qui permet l'identité juive de Jésus. C'est quand même une mission très grande, très importante, d'autant qu'il a été amené à la vivre dans la foi, puisqu'il apprend que Marie est enceinte, alors qu'ils n'ont pas encore habité ensemble. C'est donc un homme de foi, un homme juste, il ne veut pas la renvoyer, parce qu'il sait qu'elle est honnête, et il ne comprend pas. Il sait que Marie est honnête, est une sainte femme, dirait-on, et il sait qu'elle est enceinte. Alors on ne nous dit pas comment il l'a appris, mais l'Évangile dit, Joseph, qui était un homme juste, ne voulait pas la répudier, ne voulait pas la condamner. Il voulait la renvoyer en secret. Et l'ange va venir lui parler en disant, « Ne crains pas, Joseph. L'enfant que porte Marie vient de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit Saint. » Et il croira. Et il prendra Marie chez elle, selon ce que l'ange lui aura dit. Donc Joseph, un homme juste, qui n'a pas de raison d'être un vieillard, bien qu'on l'ait représenté très souvent ainsi.
Il a bien été jeune un jour.
Il n'y a pas de raison. Oui. L'Évangile ne le dit pas. Oui. Il est peut-être donc un jeune homme charmant et sympathique, qui a un travail, puisqu'il est menuisier, donc honnête, on dirait aujourd'hui de classe moyenne.
Et puis,
il n'est ni pauvre ni riche.
Il est bien amoureux de Marie aussi, donc il doit de sa génération.
Il aime profondément Marie.
Bien sûr.
Elle lui est accordée, donc les parents ont dit oui. Donc tout est clair, tout va bien. Et dans la vie de cet homme juste, de ce modèle de père de famille, de ce modèle d'époux, on peut dire ça aussi de Joseph, va arriver cet événement absolument inattendu. Il devient le gardien de l'enfant Jésus. Le texte du pape de Saint Jean-Paul II sur Saint Joseph, c'est le gardien du Rédempteur. le titre de sa lettre apostolique.
C'est vrai que les évangiles nous disent des choses sur Joseph, et lui-même, aucune parole directe de lui ne nous est rapportée, si ce n'est peut-être, on peut interjecter, à un moment, forcément, quand il a présenté Jésus à Siméon, il a bien fallu qu'il le nomme, puisqu'il y avait cette tradition que le Père nomme son fils.
Il est certain qu'il l'a nommé très officiellement. D'ailleurs, nous voyons ça au moment de la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie, qui était devenu muet, dira « il s'appellera Jean ». Et donc, Joseph, de la même manière, vous avez raison, a bien nommé Jésus. D'ailleurs, l'ange lui a dit « tu lui donneras le nom de Jésus ». Donc, Joseph devait attester devant les autorités juives, des autorités religieuses, la présentation au temple, que cet enfant s'appelait bien Jésus. Et de la même manière, il y a une véritable paternité pleine et entière assumée, car Marie elle-même parle pour Joseph quand elle dit, lorsque Jésus à 12 ans est resté au temple et que ses parents, j'ose dire ses parents, parce que c'est Marie qui le dit, elle dira « Ton père et moi, nous te cherchions. Ton père et moi, nous te cherchions. » Parce que, en fait, Joseph et Marie ne se sont pas posés tous les jours la question « Mais cet enfant vient de Dieu, mais comment faut-il faire pour qu'il se tienne droit ? Comment faut-il faire ? Parce qu'il fallait élever un enfant. Ben, » ils ont vécu comme des parents tout à fait normaux qui élèvent un enfant et qui lui ont appris à prier, qui lui ont tout appris. Donc, quand ils partent en pèlerinage, comme cela se faisait à Jérusalem, et que Jésus va se laisser prendre au milieu des docteurs pour parler de son père, Joseph et Marie, en juif pieux, se rendent chaque année à Jérusalem. Ils emmènent le petit, qui a 12 ans et qui est maintenant un grand, et au bout de 3 jours, ils marchent et au bout d'un certain temps, ils le perdent. Parce que l'un croit qu'il est avec les femmes, l'autre avec les hommes. Et en fait, ils vont, au bout de 3 jours, le retrouver au temple. Et la réaction de Marie est celle d'une mère tout à fait habituelle. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchons angoissés. »
Ah oui, on l'aurait engueulé à sa place.
À la limite,
évidemment.
Mais oui, voilà. Et donc, Joseph était bien d'accord avec Marie pour dire « Ce petit, où est-il ?»«
Nous te cherchons. » »«
Nous te cherchons. » Donc, Joseph a bien agi là aussi. Parce qu'il est aussi le protecteur de l'enfant Jésus. La fuite en Égypte prend l'enfant et sa mère. Et il est même, vous voyez, Joseph reçoit les messages de l'ange que Marie ne reçoit plus. Il a bien son rôle de chef de famille, tel qu'on peut le définir. Il est chargé de veiller sur l'enfant et sur la mère. Prend l'enfant et sa mère. Et lorsque le danger est passé, des années après, il rentrera en Palestine. Donc Joseph est l'obéissant à la parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Joseph est aussi de ceux-là. Et c'est sans doute dans la sainteté le plus éminent, puisqu'il a été à côté de Jésus pendant toute sa vie à lui, de Joseph.
On peut même dire qu'il nous montre la nécessité d'avoir un père, la nécessité d'une paternité, même lorsqu'elle n'est pas biologique, comme la sienne. C'est un peu le papa par excellence, en fait.
Et c'est d'autant plus le papa par excellence, au sens d'une paternité exercée, c'est qu'il n'a pas de droit sur l'enfant. Beaucoup de pères et de mères sont parfois appelés à revendiquer. Je ne les critique pas, mais nous t'avons élevé, nous avons fait ça pour toi. Mais enfin, mon garçon, ma fille, aide tes vieux parents, etc. Joseph ne peut rien dire, puisque cet enfant est un pur don de Dieu. Et pour les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, il nous rappelle combien la paternité est gratuite et que l'enfant est toujours un don et que vous n'avez pas, cher, j'allais dire papa, que vous êtes, vous, Thibault, un jour à dire à vos enfants « Mais tu n'as pas fait Polytechnique et moi j'avais décidé que tu ferais Polytechnique. » C'est l'humilité et la modestie, parce que l'enfant que conduit Joseph va lui échapper nécessairement. Et quand des parents attendent que leur fils ou leur fille leur succède dans tel et tel métier qu'on a pratiqué depuis des générations, c'est peut-être humain, mais chrétiennement, ce n'est pas juste. Parce qu'il y a une gratuité totale que Joseph conduit les pères vers le don, plutôt l'accueil du don, le don et la gratuité totale.
Eh ben, quel modèle, dis donc, pour nous les papas. Et est-ce que dans ce silence, si je me suis interrogé, dans ce silence dans les Écritures, est-ce que Joseph ne nous appelle pas aussi à un silence dans la prière, c'est-à-dire à essayer de, en méditant cette absence de parole de Joseph, de conduire comme ça effectivement nos enfants vers le silence dans la prière? Est-ce qu'il n'y a pas un lien à trouver?
Joseph nous appelle au silence et aussi une paternité de patience. Car on pense que Joseph est mort avant le début de la vie publique de Jésus. Ce qui veut dire plus de 30 ans. À cette époque-là, c'était un âge très avancé. Donc Joseph ne savait pas. Il savait bien qui était Jésus, mais il ne savait absolument pas ce qu'il allait faire, pas plus que la Vierge Marie d'ailleurs. Ce sont des croyants, pas des voyants. Donc vous comprenez bien l'incertitude de cet homme, Joseph, devant ce fils qui a grandi, qui a sûrement appris le métier, qui a sûrement été menuisier avec son père. Il fallait bien qu'il vive. N'est-il pas le fils de Joseph le charpentier ? C'est ainsi qu'on va désigner Jésus. Donc Joseph a dû être un modèle de patience. Quand on voit ses enfants, le père ou la mère voit les enfants qui ne savent pas trop que faire, nous pouvons remarquer Joseph dans le silence. Que sera cet enfant ? Il ne le sait pas. On lui a confié, on ne lui a pas donné un mode d'emploi. Pas plus qu'à la paternité, on donne un mode d'emploi. Vous avez un enfant, il faudra l'élever, mais un mode d'emploi, c'est dans le cœur qu'on le trouve, dans la pratique, dans la réalité. Joseph s'est adapté à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est un homme juste. Il s'est ajusté à la volonté de Dieu. L'Évangile nous montre qu'il est dans le silence parce qu'au fond, il se tait devant Dieu. Il est de ces gens de l'Ancien Testament qui, dans le silence, méditent la parole de Dieu. Et somme toute, comme la Vierge Marie, elle parle très peu, mais elle méditait tout cela dans son cœur. C'est ce que Joseph et Marie font, ce sont en fait des contemplatifs. Car quand on est en présence du Dieu fait homme, on ne peut qu'être contemplatif. Je n'ai pas dit béat d'admiration, comme des parents le sont parfois devant leurs enfants, mais contemplatif, c'est contempler l'œuvre de Dieu. Quand des parents vivent une très très grande joie spirituelle par leur enfant, ça arrive. Ils sont contemplatifs, ils ne se répandent pas en phrases longues et compliquées.
Tâchons de retrouver cette contemplation. Merci beaucoup, Mgr Ginoux, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans la découverte de la personne de Joseph.
Qu'il y ait beaucoup de Joseph dans ce monde.
Qu'il y ait beaucoup de Joseph dans ce monde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour échanger sur l'accompagnement des pères aujourd'hui.
Rencontre avec nos évêques.